Monsieur Nichols, est-ce que vous effectuez des travaux de recherche historique et sociologique aussi fouillés pour les autres îles anglaises, Trinidad, Jamaïque, la Barbade?
Non, rien de ça, parce que j'ai été à Trinidad pour quelques ans à l'université, mais il y a beaucoup des Trinidadiens qui font les recherches, et beaucoup des West Indians qui font les recherches sur les problèmes de Trinidad. Et moi-même, pas faisais rien sur ce sujet. Non.
Alors, je me demande, pourquoi cet intérêt pour Haïti?
Peut-être originellement, en le premier cas, c'est une question de la réputation de Haïti, un pays très bizarre. Peut-être ça c'est l'attraction originelle, mais après avoir lu quelques livres, quelques ouvrages sur l'histoire d'Haïti et sur le faisait un peu de recherche sur la situation contemporaine aussi, je trouve que c'est un pays très intéressant parce que très compliqué, c'est très difficile de comprendre toutes les nuances, tous les mouvements, et maintenant je suis sûr que je ne comprends moitié de les problèmes haïtiens, les situations haïtiennes.
Croyez-vous que les problèmes haïtiens et les situations haïtiennes soient significativement différents des problèmes et des situations des autres îles de la Caraïbe?
Oui, je crois qu'il y a une différence parce que je trouve qu'en Haïti, avec l'indépendance politique pour 170 plus ou moins années, il y a une certaine sorte de sécurité, une conception d'être haïtien, une conception d'identité que manque aux pays anglophones qui étaient des colonies depuis up to
19e siècle.
What I wanted to say was that they were colonies up to 1960. Mm-hmm. And I think since that period, the English-speaking West Indian islands have been, at least the intellectuals there, have been very much concerned with the question of a national identity, almost a morbid interest and insecurity in some ways, I think, of searching for something which is specifically Trinidadian, let's say, or on the larger scale, West Indian. I think that there are differences in this way. But one of the things which I found fascinating in my work on 19th century Haiti was the fact that many of the questions discussed in great detail in the 19th century by Haitian writers, such as the problem of the necessary economic conditions, or let's put it, the conditions, the economic conditions necessary for an effective political independence, a question which is central to that pamphlet which you mentioned. These sorts of questions are very much debated today in the English-speaking islands of the Caribbean. And it's interesting to see that many of the debates which one finds going on today have already gone on in Haiti more than 100 years ago. I'm thinking, well, particularly of interesting writers connected with in the very earliest period of Haitian history. De Vatty, I find an extremely fascinating writer, Le Baron de Vatty, some of the writers of Pétion's Republic, those connected with La Baye Haïtienne and Darfour in his Éclaireur Haïtien, the group connected to L'Union, M.U.N.O., the group centered on the Manifest, Lespinasse, coming through to Edmond Paul, and through to later writers of the 19th century, Janvier and Firmin. I find that the sort of issues which they were concerned with in considerable detail are ones which are very much debated and which are issues of current interest in Trinidad, for example. I mean, I don't think Haiti has solved the problems which, for example, let's say Edmond Paul discussed. I think the problems are still there. But at least they have been thought about and written about in considerable detail, and I think we could, the intellectuals in the English-speaking Caribbean can read with some profit the debates which went on in the 19th century.
Mm-hmm. Avez-vous étudié, avez-vous jeté un coup d'œil sur les écrits ou les productions d'intellectuels cubains ou dominicains? Croyez-vous qu'il y ait à Cuba ou en Dominicanie au 19e siècle le même intérêt pour ces problèmes que vous évoquez?
Oui, je ne connais beaucoup des écrivains cubains ou dominicains, non. Mais je crois qu'il y a certainement les problèmes en la République dominicaine, les mêmes problèmes ou quelques problèmes même qu'en Haïti pendant le 19e siècle. Et je crois qu'il y a les auteurs qui discutaient ces problèmes. Mais moi-même, je ne connais beaucoup de l'histoire de la littérature cubain ou dominicain. Mais je veux faire la recherche pour la comparaison avec les problèmes et les haïtiens.
Si je peux me permettre une remarque, Monsieur Nichols, vous avez délibérément choisi Haïti parce que, du point de vue linguistique, vous n'y étiez pas particulièrement enclin. Vous êtes un anglophone et nous sommes des francophones. Vous auriez pu tout aussi bien choisir les Cubains ou les Dominicains. Vous avez délibérément choisi Haïti comme champ de recherche parce que, selon vous, il y a dans la littérature haïtienne l'évocation de problèmes qui se posent actuellement dans les îles anglaises nouvellement indépendantes. Ce que j'essaie de comprendre, M. Nichols, c'est votre intérêt pour Haïti d'une façon privilégiée. Et j'essaie de comprendre, en conséquence, en quoi ce sens, disons le mot, de l'haïtianité, de l'identité haïtienne, vous paraît-il a priori plus significatif que la cubanidad ou la dominicanidad? J'essaie de le comprendre.
I can't say it's more significant because I haven't studied in detail the history of either of those two countries, and so I wouldn't like to compare Haiti with either of those two countries with respect to the question of identity. You might almost say it was a sort of accident that I became interested in Haiti, and once I became interested, I became more interested. And actually, originally, I'd intended to do a sort of comparative study of political ideology and the relationship between ideology and political practice in Haiti and in Senegal, taking one African and one Caribbean Francophone country and comparing them, maybe even extending it to Martinique and maybe one other French-speaking West African country. But once I'd begun to work on Haitian politics and Haitian history, I realized how much material there was, and regarded my first plan as being very much too ambitious. And so it's been reduced to basically a study of a particular theme in Haitian history, and basically it's the theme of independence. In one case, the relationship between political independence and economic dependence, and the work I'm doing at the moment, I hope to publish maybe next year, is on the relationship between ideas of race and colour and independence in Haiti from 1804 up to the present day, effectively. And the basic theme of that is that through the history of Haiti, it has been the conception of race which has been the factor uniting Haitians. One can take several examples of this in the early history of Haiti, or even, let's say, in the time of the American occupation, when effectively, at least after the first few years of occupation, Haitians were united, and they were united very much on the basis of race. Mulattoes and blacks both being members of the African race, both being regarded as such by the American occupation, and this leading to a unity of action. And then the whole theme of colour, which has continually been a divisive factor in the history of Haiti, and which has led one party, and I wouldn't identify parties, of course, political parties or groups in Haiti totally with colour groups, this would obviously be a mistake, but colour has been one of the major factors influencing the formation of political groups in the history of Haiti. And that these divisions are so deep that they have led, I think, one party to prefer to invite or to allow foreign intervention in the politics of Haiti rather than allowing their opponents to come to power. And so whereas race, one can say, has been the uniting factor, colour has been and has defended, and through the conception of race, Haitian independence has been defended, that through ideas and prejudices very closely connected to colour, Haitian independence has continually been threatened by one group being prepared to invite foreign intervention rather than let their opponents come to power. That's the sort of general thesis of the...
And I think it's, je pense que c'est extrêmement intéressant parce que cela ouvre les yeux justement sur les deux pulsions de notre identité, de notre haïtianité. Une pulsion unitaire qui permet à l'homme haïtien de se retrouver à travers son histoire ethnique, et une pulsion divisive qui permet, en fonction de la couleur, en fonction des clivages de couleur, à l'homme haïtien de se perdre tant d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire les mulâtres préférant une intervention étrangère plutôt que de laisser le noir au pouvoir, et vice-versa, le noir préférant une intervention étrangère plutôt que de laisser le mulâtre arriver au pouvoir. Vous voyez, il y a donc là les deux pulsions qui tiennent ou qui se contrebalancent pour notre haïtianité. Mais puisque vous avez évoqué l'exemple d'un autre pays francophone d'origine africaine et africain, le Sénégal, actuellement, c'est de comprendre, et je commence à comprendre maintenant, peut-être vais-je vous révéler quelque chose à vous-même, c'est que étant anglophone, étant lié aux Caraïbes anglophones, ne peut-on pas dire, ne dirait-on pas que Haïti représente quelque chose d'unique, parce que il y a chez nous cette origine africaine cohabitant avec une tendance assimilationniste européenne, que les Caribéens actuels, les Antillais anglophones, retrouvent chez eux, les deux pulsions, tandis qu'à Cuba et en Dominicanie, il n'y avait pas cette forte africanité s'opposant à une européanité.
C'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai.
C'est bien ce que je comprends maintenant.
Oui, c'est vrai, certainement. Mais à Trinidad, il y a cependant le problème des Indiens de l'Est, parce qu'à Trinidad, vous connaissez, il y a, vous savez, il y a 40% hindous. Mm-hmm. Oui, oui. Ça, c'est un problème particulièrement trinidadien et de Guyane aussi, Guyane anglophone. Mm-hmm. Mais par exemple pour Jamaïque ou Barbade ou les petites îles des Antilles, je crois que Haïti est plus relevant, oui, la situation
plus
est plus proche.
Les situations sont plus proches, bien qu'ils n'aient pas, eux, une minorité mulâtre aussi importante en Haïti. À Barbade, Jamaïque, ils n'ont pas une aussi importante minorité mulâtre.
Non, mais c'est une minorité blanche.
Blanc.
Oui, mais la minorité blanche
qui joue le rôle,
qui joue presque le même rôle. Et c'est toujours aussi une question de couleur. Et beaucoup des familles soi-disant blanches en Jamaïque sont en fait mulâtres.
Sont en fait mulâtres.
Oui. Ah, oui. Ah, bon. Oui.
Mais c'est là où vous voyez, je vous attendais, c'est que il y a dans l'idéologie, si l'on peut dire, du mulâtre historique haïtien, une attirance vers l'Europe, certaine.
Oh, mais pas avec, seulement avec les mulâtres, mais aussi avec les Noirs. Pendant le 19e siècle. Mais je crois que c'est une partie de la légende noire que les leaders noirs pendant le 19e siècle, particulièrement le groupe de Salomon et le groupe de la Parti National, est plus orienté vers l'Afrique.
Mais
c'est une légende. C'est Salomon est trop orienté vers l'Europe et presque toute la Parti National. Par exemple, Janvier,
un autre
national, piquetisme doctrinaire, il est très orienté vers l'Europe en ses idées, en ses écrits. Oui.
Ah, c'est justement ce que je voulais vous demander, parce que quand vous dites que la situation se ressemble des Antilles à Haïti, Mutatis Mutandis, je crois qu'il y a là une nuance à opérer. C'est qu'il y a tant chez l'intellectuel mulâtre que chez l'intellectuel noir du 19e siècle,
oui,
une tendance assimilationniste européenne,
oui,
qui se retrouve aussi bien chez l'un que chez l'autre.
Oui.
Ce qui permet peut-être d'imaginer, avec le recul de l'histoire, une idéologie haïtienne de l'élite,
oui,
qui comprendrait aussi bien les apports mulâtres,
oui,
que les apports noirs.
Oui, oui.
Une idéologie,
oui,
haïtienne de l'élite, oui ou non?
Oui, je crois qu'il y a beaucoup des idées en commun entre les deux élites haïtiennes pendant le 19e siècle. C'est différent après l'occupation, pendant l'occupation américaine. Mais pendant l'occupation américaine, c'est intéressant que peut-être le plus radical noiriste est un mulâtre, c'est Karl Brouwer.
Karl Brouwer, oui. C'est très, très curieux en Haïti. C'est très curieux ce passage de l'un à l'autre.
Oui, oui, oui.
Très curieux, et peut-être que cela nous ouvre une autre perspective, Monsieur Nichols. Parce que si dans les Antilles anglaises, l'élite actuelle, historique, à tendance blanche, représente presque à 90% la tendance assimilationniste européenne, opposée au reste de la population qui, elle, se rattache ethniquement à l'Afrique, ici en Haïti, je crois qu'il y a une petite différence.
Oui.
Bien sûr, dans l'élite mulâtre traditionnelle, il y avait ce bourrarisme dont parle Price Mars, il se croyait blanc.
Oui.
Mais il y a aussi, historiquement, à travers l'histoire d'Haïti, une tendance créole d'enracinement que l'on retrouve aussi bien chez les mulâtres que chez les noirs. Prenons les écrivains, les historiens que vous venez d'évoquer,
les Spinas,
particulièrement.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui.
Il était bien sûr en partie un Européen dans sa conception, dans sa façon de voir, un mulâtre dans son interprétation de l'histoire d'Haïti. Mais dans ses prises de position,
oui,
il se sentait haïtien,
oui,
différent de l'Européen.
Oui, oui, hein? particulièrement Lespinasse. Il est très intéressant, oui, parce qu'il dit que Haïti, il y a deux traditions, européenne et africaine. Et il voit quelque chose d'importance dans la tradition africaine. Mais ça, c'est une exception, je crois. Il y a beaucoup d'intérêt en l'Afrique ancienne, la civilisation de la Nil, de l'Égypte. Il y a beaucoup d'intérêt en le problème d'être africain par race, biologiquement. Il y a un intérêt en la conception de l'égalité de tous les humains.
Mmh.
Mais il n'y a pas, je crois, pendant le 19e siècle, idée en Haïti de l'Afrique de le 19e siècle, de civilisation d'Afrique contemporaine, avait une value pour le monde ou pour Haïti. Civilisation pour les Haïtiens, presque tous les Haïtiens, c'est une question de civilisation européenne. Ça change avec peut-être dans une ville, il y a des très intéressants articles dans le journal Jean-Christophe Dordel, dans le journal Le Matin pour 1908, mm-hmm, il y a quelque chose là de très intéressant. C'est prior de Price Mars.
Oui, c'est juste
parce que Price Mars avait écrit en 1912 que c'est important en Haïti d'écraser la superstition, ça c'est le voodoo. Ça c'est Price Mars 1900, je crois que 1912. Après ça, il change un peu son position.
Son voyage en France, quand il a découvert les premières études ethnologiques.
Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Mais je crois que dans une ville
antérieure.
Oui, oui. Et peut-être aussi Antoine Innocent, quelques mots sur la préface de son livre Mimola.
Mimola,
oui.
Son roman Mimola.
Oui, oui.
Mais il y a aussi, en remontant plus haut, il y a aussi l'auteur d'Isalina, l'auteur de ce conte-là, Ignacio. Il y a aussi Ignacio dans un petit conte, mm-hmm, de quelques pages où il est le premier à avoir d'abord décrit la vie sur une habitation de Cannes, et ensuite à avoir fait une référence à une cérémonie et à un rongan, mm-hmm, en 1830.
Ah oui.
En 1830.
Oui, oui, ça c'est intéressant.
Vous voyez, c'est intéressant à voir.
Mais c'est une référence sympathiquement
référence assez objective,
uh-huh,
assez
uh-huh,
objective,
uh-huh,
vous voyez.
Mais
c'est un Ongan qui déjoue un mauvais sort jeté sur deux amoureux, vous voyez,
uh-huh,
et qui arrive à déjouer ce mauvais sort, et lui il ne considère pas ce Ongan comme un sorcier, uh-huh, il le considère comme une sorte de patriarche bienveillant. C'est très significatif que cette nouvelle, mm-hmm, ait été écrite en 1830.
Oui,
très,
oui,
significatif.
Oui, ça c'est intéressant.
Vous voyez ? Donc il y a toute une tradition qui est parfois sporadique, presque parcellaire, mais de temps en temps dans l'histoire littéraire haïtienne, mm-hmm, l'histoire de l'idéologie, il y a un retour vers nos sources, une tendance à retourner vers nos sources et pour nous identifier, pour nous retrouver nous-mêmes.
C'est très difficile de trouver, je crois. Peut-être il y a quelqu'un, oui, mais de trouver les Haïtiens pendant le 19e siècle qui voient en le voodoo quelque chose de value, d'importance. Presque toujours, les Haïtiens idéologiques disent que le voodoo pas existe en Haïti. Par exemple, Janvier dit qu'il n'y a pas de voodoo.
Il n'y a pas de voodoo. Oui,
et
ça.
Léger aussi.
Oui.
J'ai un léger. Mais c'est très difficile de trouver les Haïtiens qui disent qu'il y a en voodoo quelque chose de value ou d'importance en préserver les traditions africaines.
Africaines.
Parce que les traditions africaines, pour presque tous les intellectuels haïtiens, je crois, pendant le 19e siècle, si c'est africain, c'est barbare.
Oui. Oui. C'est exact. Et ceci que l'intellectuel soit mulâtre ou noir.
Oui, certainement.
Oui. Bon, alors je crois que ça va, moi, je vais arrêter là.